France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 un épidémiologiste, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur de Paris, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, membre du Conseil scientifique. Vos questions 01 45 24 7000, passez autrement par les réseaux sociaux ou l'application mobile d'Inter. Arnaud Fontanet, bonjour.
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 Et bienvenue. Partons du paysage à l'instant T, moins de 300 000 contaminations quotidiennes ces 7 derniers jours contre 313 000 en moyenne la semaine précédente. Les admissions en réanimation aussi sont en baisse, mais pas les hospitalisations. Cette situation sanitaire peut sembler difficile à comprendre ou à lire. Alors expliquez-nous, nous sommes le 17 janvier, quel mot pour qualifier ce paysage? Diriez-vous que le scénario du pire s'éloigne en France et que la décrue a commencé?
Alors oui, le scénario du pire s'éloigne, la décrue a commencé, le pic des infections en tout cas a été passé ces jours-ci, hein. On est vraiment, peut-être la semaine dernière dans la région Île-de-France, ce sera un petit peu plus tard pour les autres régions françaises. Les admissions à l'hôpital pourraient encore continuer d'augmenter pendant quelques jours, il y a toujours un décalage entre les infections et les admissions à l'hôpital, mais là aussi on devrait atteindre le pic, disons, dans la semaine qui vient. En revanche, les patients vont rester à l'hôpital. On peut s'attendre à ce que les hôpitaux restent encore très sollicités tout le courant du mois de février. Mais pour l'instant, on a le sentiment effectivement que le pic est en train de passer devant nos yeux.
Donc le pic est en train de passer. Il est passé la semaine dernière en Île-de-France. C'est cette semaine ou la semaine prochaine là pour les autres régions. À quelle date vous voyez la fin de la vague ?
Alors
fin février, on a fini d'Omicron.
Le nombre d'infections va décroître considérablement pendant le mois de février et effectivement au mois de mars, on devrait être à des niveaux très bas. Alors tout ceci, bien sûr, ce sont des projections qui tiennent compte d'un certain nombre d'hypothèses. Je voudrais revenir quand même sur un élément qui est fondamental, hein, c'est que la catastrophe dont vous parlez, qui a été évitée, elle tient en partie au comportement des Français. On avait sur nos projections des éléments forts pour dire qu'en diminuant de 20% les contacts, on divisait par deux le nombre d'hospitalisations. C'est très vraisemblablement ce qui s'est passé. Donc on aurait vraiment pu avoir une situation beaucoup plus dégradée s'il n'y avait pas eu, depuis début janvier, un effort collectif qui a permis donc cette réduction du nombre de contacts et du coup d'éviter une catastrophe sanitaire que nous redoutions.
Arnaud Fontanet, le variant Omicron est aujourd'hui dominant avec près de 9 tests de criblage sur 10. Mais Delta est-il encore présent et à quel niveau ?
Pour l'instant, Delta est à un niveau très faible. Hein. On a à peu près 90% effectivement des variants testés qui sont de l'Omicron. Quand on regarde l'Angleterre, ils sont à 95%. Hein. Je rappelle que l'Angleterre a 15 jours d'avance sur nous. Donc on est dans cette phase qui était attendue où le variant Omicron allait prendre le dessus sur Delta et qui était le variant prédominant partout dans le monde. Il n'est pas dit que cet équilibre va rester là où il s'est installé aujourd'hui avec une très forte prédominance d'Omicron. Il n'est pas exclu que Delta remonte dans les semaines qui viennent, ça, on le verra.
Et ça, ce serait un problème, parce que pour le coup, si on a bien compris ce que vous nous dites depuis quelques jours, quelques semaines, les personnes en réanimation, principalement, ont été infectées par le Delta et pas l'Omicron. Le plus dangereux des deux, c'est clairement Delta. Donc si ça revenait dans les prochaines semaines, ce serait pour le coup une nouvelle vague, un nouveau problème.
Alors, il y a eu quand même énormément de personnes qui ont été infectées pendant cette vague Omicron. On a des éléments qui nous laissent entendre que quand vous avez été infecté par le virus Omicron, vous êtes en partie protégé contre le variant Delta. L'immunité que vous avez développée à l'occasion de cette infection vous protège de façon ce qu'on appelle croisée. Donc, on a des raisons de penser quand même que Delta ne va pas revenir, en tout cas avec la vigueur qu'il avait pendant la vague épidémique qu'on a vue pendant l'automne. Et puis, on se rapproche quand même d'une période qui a toujours été plus calme sur la circulation des coronavirus, qui est celle du printemps. Et donc, voilà, je pense qu'on est quand même plus sur une phase de décroissance pendant le mois de février. Le mois de mars va aller et je ne m'attends pas à une reprise du variant Delta à cette période. C'est juste que la part relative des deux variantes pourrait un petit peu évoluer dans le cours du temps, mais à des niveaux beaucoup plus bas.
Toujours à l'hôpital, quand les soins déprogrammés vont-ils pouvoir reprendre, selon vous ?
Alors effectivement, par rapport au scénario qui était envisageable, hein, ce qu'il faut comprendre dans cette crise, c'est qu'on a vu arriver Omicron, on savait qu'il était beaucoup plus transmissible, il était très difficile pour nous au début de savoir s'il serait moins sévère. Et l'équipe de Simon Cochepaz à l'Institut Pasteur a fait des projections qui prenaient 4 scénarios de sévérité d'Omicron par rapport à Delta, 3 scénarios de transmissibilité d'Omicron par rapport à Delta. Et au début, fin décembre, tout était ouvert. Hein. On pouvait avoir ce qui se produit aujourd'hui, quelque chose de relativement bien contrôlé, mais on avait des scénarios beaucoup plus difficiles. Donc il a fallu anticiper avec des déprogrammations qui ont été nécessaires. Et on s'en rend compte aujourd'hui parce que les niveaux d'occupation des lits en hospitalisation conventionnelle, ils vont être ceux des vagues précédentes, hein, des pics des vagues précédentes. Là, on est à 25 000 hospitalisations. Les pics des vagues précédentes, c'était 30 000. Donc on en est très proche. Et il a fallu anticiper, déprogrammer. Je pense que dans le courant du mois de février, quand la situation sanitaire va s'améliorer, ce sera le moment où on va pouvoir envisager de repartir sur ces interventions qui ont été différées.
Mais Arnaud Fontanet, cette idée qu'on entend depuis plusieurs semaines qu'Omicron va nous permettre d'atteindre l'immunité collective, vous y croyez, vous, ou pas ?
Alors, il faut s'entendre sur le terme d'immunité collective. Hein. Typiquement, pour les épidémiologistes, c'est une immunité qui fait que le virus s'arrête de circuler. Ça, on l'a oublié. On sait qu'on a un virus qui, même les vaccins ou l'infection, n'empêche pas les réinfections. Dès lors, on n'a pas d'immunité qu'on appelle stérilisante. Ce virus, il va s'installer, il va circuler et on aura très régulièrement, probablement pendant les phases hivernales qui sont les phases propices à la circulation des virus respiratoires, des épidémies de Covid dans les années qui viennent.
Donc comme il y a l'épidémie de grippe, il y aura une épidémie de Covid dans les années qui viennent.
Ce qui est très important, c'est que à chaque vague qu'on a connue, à chaque épidémie qu'on a connue avec des variants différents, on a renforcé notre immunité, que ce soit par infection avec ce variant ou par vaccination. Et au fur et à mesure qu'on rajoute des couches d'immunité, on se protège de mieux en mieux contre les formes graves. Et c'est ça qui fera qu'à terme, on aura une circulation du variant X ou Y dans les mois ou années qui viennent, qui donnera des rhumes et des angines, ce que l'on voit avec les 4 autres coronavirus saisonniers qui nous donnent chaque automne, chaque hiver, des rhumes et des angines. Mais on l'espère, on ne verra plus de formes graves, en tout cas dans des quantités telles qu'il faille prendre des mesures pour protéger les hôpitaux.
Olivier Véran disait au début du mois que la 5e vague serait peut-être la dernière. Dans le JDD hier, l'épidémiologiste Vittoria Colizza déclare, elle, qu'on n'a pas de preuves pour dire que cette vague sera la dernière. Idem chez Dominique Costagliola qui dit que cette assertion relève de la pensée magique. Alors vous, Arnaud Fontanet, qu'en dites-vous ? Cette 5e vague peut-elle être la dernière ou pas ?
Alors comme on vient de le dire, il y aura à nouveau des vagues dont il est difficile de dire quelles seront leurs sévérités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mécanisme d'émergence de nouveaux variants, il existe, il est intact. Dans le cas de Omicron, on suspecte fortement une infection chronique chez une personne qui avait un déficit immunitaire sévère. Si on prend le contexte de l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de patients qui souffrent du sida en Afrique du Sud. Certains ont des traitements qui ne sont pas adaptés. Et il y a une publication de nos collègues sud-africains qui a raconté une histoire très proche de ce qui a pu se passer pour l'émergence d'Omicron, à savoir chez une patiente qui avait un sida, une infection chronique de 6 mois avec le SARS-CoV-2, avec une accumulation de mutations pendant cette infection chronique chez la même personne. Une infection par le SARS-CoV-2, normalement, ça dure quelques jours. Là, ça a duré 6 mois. Et cette accumulation de mutations a fait émerger un variant qui contenait des mutations proches du variant bêta, proches du variant Omicron. Ce processus, il continue d'exister. Donc, on peut toujours avoir émergence de nouveaux variants. La question qui se pose, c'est que ces variants-là, pour l'immense majorité, ils vont être contrôlés parce que la population est immunisée dans son ensemble. Mais si vous avez un variant qui émerge, qui est capable d'échappement immunitaire comme l'a été Omicron, qui est capable d'une contagiosité extrême, parce que Omicron, c'est vraiment un extraterrestre dans le monde du SARS-CoV-2, parce qu'il rentre dans la cellule par des voies que d'autres variants n'utilisaient pas, il affecte plus les bronches que les poumons de fait. Et donc si on a ces combinaisons assez inattendues de variants avec à la fois une capacité d'échappement immunitaire très forte et une contagiosité due à des propriétés biologiques un peu différentes, on peut se retrouver avec une nouvelle vague. Toute la question là sera de savoir quelle sera la sévérité de ce nouveau variant qui vient d'émerger. Si on a la chance avec Omicron d'avoir un variant peu sévère, on aura des vagues qui finalement vont affecter les hospitalisations mais pas les réanimations. Si malheureusement le prochain variant qui échappe beaucoup, qui est très contagieux, est en plus sévère, ce sera plus difficile. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, parce que je veux quand même déjà donner des bonnes nouvelles, c'est comme on l'a dit, à chaque vague, on rajoute une couche d'immunité. L'immunité naturelle, l'immunité vaccinale, oui. Celle-là, elle dure, notamment dans la protection contre les formes graves. Et donc, on peut s'attendre à terme à ce qu'on soit protégé contre les formes graves pour une gamme de variants extrêmement élevée. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même de l'espoir.
Mais vous n'excluez pas qu'il y ait une sixième vague ou une septième vague. Hein. Vous n'êtes pas aussi optimiste que le ministre de la Santé.
On n'exclut pas une sixième ou une septième vague. On sera mieux armé une fois de plus parce que on est mieux vacciné. On aura probablement vacciné les enfants d'ici là. On va avoir des traitements à partir de la mi-février. Le Paxlovid, qui est un traitement pour les personnes à risque de forme grave, divise par 10 votre risque d'hospitalisation. On apprend la gestion de ces vagues, donc on sera quand même de mieux en mieux armé face aux prochaines vagues.
À tel point que la ministre de la Santé espagnole hier disait vouloir appeler à gérer le Covid comme une épidémie de grippe. Elle dit ça, elle dit maintenant il faut arrêter de le gérer comme une pandémie, mais comme une épidémie de grippe. Même chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est... Elle a raison ou c'est trop tôt ?
Alors, je pense que c'est les modèles vers lesquels on se dirige. Hein. On va se retrouver avec des épidémies saisonnières. Et là, il faudra effectivement, dès qu'un nouveau variant émerge, très rapidement réunir toutes les informations dont on a besoin sur sa transmissibilité, sa capacité d'échappement immunitaire et surtout sa sévérité. Si on voit qu'il est sévère, là, il faut mettre les barbelés. Si on voit que c'est un variant qui, finalement, entraîne des formes relativement bénignes, on pourrait être quand même beaucoup plus souple dans sa gestion.
Mais Arnaud Fontanet, si le pic est passé, si l'hôpital n'est pas submergé, faut-il, selon vous, conserver les jauges, le télétravail 3 ou 4 jours par semaine, ne pas consommer debout dans les bars ? Ne redoutez-vous pas, au fond, le ras-le-bol ou tout simplement que les Français n'appliquent plus ces règles ?
Alors, on est juste en train de passer le pic. Et comme je vous le disais au début, c'est ces 20% de démission des contacts qui nous ont évité d'avoir un pic deux fois plus élevé en nombre d'admissions. Donc, un peu de patience, et malheureusement, je sais, je comprends l'exaspération et la fatigue de tous, moi le premier, hein, parce que c'est énormément de travail de faire face à toutes ces interrogations que nous posent ces nouveaux variants. Mais là, on passe à peine le pic. Continuons l'effort, il a vraiment payé.
Mais jusqu'à quand, pardon ?
Et surtout, c'est un pic de courte durée, c'est ça sur lequel je voulais terminer. C'est que, comme je vous le disais, dans le mois de février, le nombre d'infections va décroître très fortement. Au mois de mars, on sera à des niveaux très bas.
Donc il faudrait alléger quand les contraintes ?
Courant février, couvrant. Voyons un petit peu ce qui va se passer. Le nord de la France, finalement, actuellement, est quand même dans une situation où on sent que ça va passer raisonnablement bien parce que les niveaux d'occupation des hôpitaux et des soins intensifs sont gérables. Ils sont durs. Hein. On est quand même à, vous voyez, 80% des pics des vagues précédentes, mais c'est gérable. Le sud de la France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, le niveau de remplissage des hôpitaux en hospitalisation conventionnelle et en réanimation est celui du pic des vagues précédentes.
D'accord.
Donc là, vraiment, il faut encore un peu de patience, mais sur une courte période, mais courant février, la situation va s'améliorer.
Pour parler de la défiance des Français, il y a quand même un chiffre hier dans le journal du dimanche qui a été publié, un sondage, je ne sais pas si vous l'avez vu, où l'adhésion au pass vaccinal qui entre en vigueur dans les prochains jours, elle est en nette baisse, l'adhésion des Français au pass vaccinal. Seulement 58% des Français le soutiennent, ils étaient beaucoup plus nombreux il y a encore quelques semaines. Donc on sent quand même ce ras-le-bol. Sur ce pass vaccinal, le professeur Éric Combe, qui est infectiologue à l'Hôtel-Dieu, a déclaré il y a quelques jours que, je le cite, alors dites-nous ce que vous en pensez, parce qu'il est très clair, lui. Le pass vaccinal est d'un point de vue épidémiologique et d'un point de vue épidémiologie, santé publique, médicale, clairement une erreur. On voit bien que le vaccin n'empêche pas la circulation du virus. Le pass sanitaire est un marqueur d'affichage et surtout de clivage, mais ce n'est ni de la médecine, ni de la santé publique.
Alors, sur le rôle que le vaccin a sur la circulation du virus, le vaccin a un effet. Certes, à 6 mois de la deuxième dose, il n'y a quasiment plus de protection contre l'infection. En revanche, si vous faites votre appel, vous remontez vous diminuez de 70% votre risque de vous infecter. Donc, c'est pas du tout négligeable dans le contexte d'une épidémie. Et effectivement, 3 mois plus tard, ça recommence à baisser. Vous n'êtes plus qu'à 50%. Une fois de plus, le vaccin a un rôle fondamental sur la protection contre les formes sévères. Si vous êtes à 6 mois de votre deuxième dose, vous êtes à 50% de protection contre les formes sévères. Si vous faites votre appel, vous montez à 90%. Donc, le vaccin est essentiel. Toute la question.
Mais là, pourquoi il dit ça?
Toute la question est de savoir comment est-ce que l'on peut au mieux arriver à la couverture vaccinale maximale qui nous protégera ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans les réanimations, il y a une majorité de personnes qui sont non vaccinées. Ce sont des drames humains. C'est aussi la raison pour laquelle on doit prendre des mesures pour protéger l'hôpital, parce qu'il y a d'autres patients qu'il faut accueillir dans les hôpitaux. Donc le vaccin est essentiel. Comment arriver maintenant à une couverture vaccinale maximale ? Il y a effectivement l'obligation vaccinale que certains pays ont choisi mais qui ne fonctionnerait que si on peut mettre des sanctions derrière et qu'on peut les appliquer. C'est pas du tout évident. Le pass vaccinal est une autre façon d'arriver à inciter les Français à se vacciner. Donc voilà, on joue sur les outils dont on dispose pour essayer d'atteindre cette couverture vaccinale maximale dont on a absolument besoin.
Mais est-ce que vous voyez une hausse spectaculaire de la vaccination depuis l'annonce qu'il va y avoir un pass vaccinal obligatoire ? Effet d'entraînement qu'on avait pu voir pour le pass sanitaire.
Alors effectivement, les chiffres aujourd'hui sur les nouvelles, les toutes premières injections sont de l'ordre, je vais peut-être me tromper, hein, 40 000 nouvelles injections par jour. Il y en a qui tiennent aussi des vaccinations des enfants. Donc ce n'est pas des chiffres très élevés. On est arrivé dans le dur de ce que l'on peut faire pour convaincre les personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Parce que voilà, on est à 90% des adultes qui ont été vaccinés. Les enquêtes de Jeremy Ward et l'Inserm nous disent qu'il y a encore un tiers de personnes qui seraient susceptibles de vacciner, deux tiers qui sont très récalcitrants. Pour cela, effectivement, ça va être très difficile de les convaincre. C'est malheureux parce que c'est vraiment pour eux des pertes de chance. Et puis, comme on l'a dit, ça rend la situation hospitalière très compliquée.
Arnaud Fontanet, il y a les anti-vax, ces 4 ou 5 millions de Français qui refusent absolument le vaccin. Puis, il y a d'autres gens qui sont les gens qui n'ont pas envie de faire la troisième dose, qui disent on en a déjà fait deux, on s'est injecté, on n'a pas envie de faire la troisième dose. Et surtout, qui disent quel est le rapport coût-bénéfice entre les effets secondaires, qui sont souvent nombreux, et l'intérêt de cette nouvelle dose. Je pense notamment aux femmes qui ont eu des effets secondaires, notamment sur les cycles menstruels qui sont perturbés après la deuxième dose. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu des effets secondaires et qui se disent « je suis jeune, est-ce que j'ai encore envie de reperturber mon cycle menstruel avec une troisième dose ? Non, j'en ai pas envie. » Et ils ne sont pas anti-vaccins. Vous répondez quoi ?
Alors sur les effets secondaires que vous citez, il y a une étude américaine de grande ampleur qui a été menée qui nous dit que le cycle a changé, la durée du cycle a changé d'un jour et que c'est temporaire. Donc ce sont des perturbations, je comprends tout à fait, enfin j'imagine en tout cas pour une femme ce que ça peut représenter, mais il faut savoir que c'est temporaire, il faut savoir que c'est une durée de cycle qui change d'un jour seulement, et donc il n'y a pas de raison.
Pour beaucoup de femmes, c'est des mois sans règles, hein, et demander aux gynécologues.
Je peux tout à fait croire qu'il y a des personnes qui ont eu des effets secondaires plus marqués, mais cette étude qui porte sur des dizaines de milliers de femmes nous donne des résultats qui sont quand même globalement très rassurants. L'important de cette dose de rappel, hein, comme je venais de vous le citer, c'est la protection contre les formes graves. Une fois de plus, si vous êtes à 6 mois de votre deuxième dose, vous êtes protégé de 50% contre l'hospitalisation, vous montez à 90% de protection contre l'hospitalisation quand vous avez fait votre dose de rappel. Donc là, le bénéfice, il est
incontestable. Vous dites, n'hésitez pas, même ceux qui disent les effets secondaires, moi, les 4 jours avec de la fièvre au lit, j'ai pas envie de le refaire, vous leur dites, si, faites-le.
Ah, le bénéfice est évident. Après, je comprends que pour certaines personnes, ça peut être difficile. Hein, il y a une grande variabilité dans les effets secondaires. En général, ceux que vous avez après la troisième dose sont du même niveau que ceux de la deuxième dose. Il y a peu d'effets sur la première dose. Il y a toujours une variabilité individuelle.
Il y a beaucoup de gens qui ont dégusté à la deuxième dose. Il faut dire les choses.
Exactement, c'est ce que je vous disais. La première dose, vous faites un certain nombre d'effets indésirables. Vous en faites plus à la deuxième. À la troisième dose, vous êtes au même niveau que la deuxième. C'est ça, en tout cas, ce que les études, une fois de plus, nous rapportent.
Catherine est au standard et nous attend. Bonjour Catherine, bienvenue.
Bonjour, oui, écoutez... Je reste perplexe devant la grande assurance de Monsieur Fontanet. Moi, franchement, j'étais à fond pour le vaccin, les 71 ans. Dès que j'ai pu, je me suis fait vacciner. Dès que j'ai pu, j'ai fait la troisième dose. J'ai failli me disputer avec ma fille qui était réticente, qui m'a traitée de militante du vaccin. Bon. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Toute ma famille est malade. Ma fille, mon gendre, mon fils, enfin, les petits-enfants, le bébé de 20 mois, ils ont tous attrapé le Covid alors qu'ils étaient vaccinés. Tout le monde tombe comme des mouches autour de moi. Qu'est-ce que j'entends sur France Inter, aux infos ? Et puis on parle de quatrième dose, de cinquième dose. C'est efficace. 5 mois, Monsieur de Fontanet vient de dire, au bout de 5 mois, c'est plus efficace, au bout de 3 mois. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vaccin ? Moi, je suis âgée. On m'avait dit que quand on se fait vacciner, c'était pour ne pas tomber malade. Mmh. Alors un vaccin qui est plus efficace au bout de 2 mois, 3 mois, bon.
Est-ce encore un vaccin, Catherine?
Mais franchement, à quoi ça sert?
Merci pour cette question. Arnaud Fontanet vous répond.
Très bien. Donc je vais vous répondre effectivement. On est face à un virus respiratoire. On ne sait pas les mêmes virus et les mêmes réponses au vaccin selon la nature du virus. Là, vous avez un virus qui rentre par la muqueuse nasale. Le vaccin, on vous l'injecte dans le bras. Il vous donne des anticorps qui circulent dans le sang, mais qui ne protègent pas nécessairement bien contre l'infection qui a lieu au niveau de la muqueuse nasale. Par rapport à ce qui arrive dans votre famille, effectivement, il y a eu des infections, et on le sait maintenant avec ce variant Omicron, qui sont survenues chez des gens qui avaient eu deux doses, chez des gens qui avaient eu leur dose de rappel. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé très largement. Ce qui est très important pour votre famille néanmoins, c'est que vous êtes bien protégé contre les formes graves. C'est ça qu'on cherche, et c'est vraiment ça le message à faire passer. Par rapport à un virus respiratoire qui passe par la muqueuse nasale, n'attendons pas trop d'un vaccin pour empêcher les infections. En revanche, il vous protège contre les formes graves.
En fait, c'est plus que ça le vaccin, si on est honnête. C'est plus que de protéger contre les formes graves, puisque ça n'empêche pas d'avoir de choper le Covid, pour être
clair. Et je reviens exactement à la question.
Pardon, ce que je veux dire, c'est qu'on a braqué l'histoire, et les hommes politiques l'ont braqué sur pro-vaccin ou anti-vaccin. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on entend des gens qui sont comme cette dame au téléphone, pro-vaccin, mais qui disent à quoi ça sert. Et ça, il faut l'entendre aussi. À quoi ça sert de s'injecter des produits chimiques si on ne sait pas, si on réattrape la maladie sans problème avec des effets secondaires aussi à chaque fois qu'on se l'injecte.
Vous avez parfaitement résumé la situation. On est en train d'éviter les formes graves. C'est ça l'objectif. Ça n'est plus d'éviter l'infection. On sait que c'est un coronavirus qui va, par la nature d'un virus respiratoire, continue de circuler. On est là pour protéger contre les formes graves.
Et c'est Marie qui est désormais au standard. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci de me prendre au téléphone. Moi, ma question concerne la vaccination des enfants. Il est très difficile d'avoir des renseignements quand on a des cas intermédiaires, autrement qu'à la louche. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants qui ont, par exemple, entre 11 et 12 ans ? Le mien, il va avoir 12 ans au mois de mai. Est-ce qu'on lui fait une demi-dose ? Est-ce qu'il est, dans ce cas-là, protégé ? Mais protégé de quoi, puisqu'on voit que ça galope ? Mais il peut le passer aussi quand même aux grands-parents dont je suis. Et deuxièmement, si est-ce qu'il aura, dans ce cas-là, en dehors de la protection, un pass vaccinal, et est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre qu'il ait 12 ans au mois de mai et qu'il soit obligé d'être vacciné avec, à ce moment-là, une dose qui sera proportionnelle aux adolescents. Il fait 1m50 et presque 40 kilos.
C'est un beau bébé. Merci Marie pour cette question. Arnaud Fontanet vous répond.
Alors, la vaccination est ouverte aujourd'hui aux enfants de 5 à 11 ans. C'est extrêmement important. Malheureusement, elle décolle lentement en France. Comparé à nos pays voisins, on a du mal à vacciner les 5 à 11 ans. C'est extrêmement important par rapport aux 400 000 enfants qui ont entre 5 et 11 ans et qui sont à risque de formes graves de la Covid, parce que heureusement cette maladie touche peu les enfants en termes de gravité de la maladie, mais il y a quand même 400 000 enfants qui ont des maladies cardiaques, respiratoires, congénitales, que les pédiatres connaissent très bien, que les parents connaissent très bien, pour qui vraiment cette vaccination est utile. On sait aussi qu'elle est très sûre. On a l'expérience aujourd'hui de 8 millions d'enfants américains de 5 à 11 ans qui ont été vaccinés et pour lesquels les effets indésirables ont été très limités. Donc il est très important de vacciner les enfants de 5 à 11 ans, et votre petit-fils peut commencer dès maintenant. Il pourrait, après, voir sur les doses de rappel quel sera le dosage qui sera nécessaire. Il est aussi très important que les enfants de 5 à 11 ans qui vivent aux côtés de personnes fragiles se vaccinent, parce qu'il existe, notamment encore en France, des personnes qui ont des déficits immunitaires sévères, qui, malgré la vaccination, n'arrivent pas à faire des anticorps, qui sont très vulnérables, qu'on retrouve aujourd'hui en réanimation. Ils sont 300 000, c'est des gens qui sont transplantés d'organes, insuffisants rénaux, qui ont des chimiothérapies. Il faut les protéger par la vaccination de leurs proches. Donc oui, vacciner les enfants, c'est très important.
Un dernier mot sur le traitement. Le patron du laboratoire Pfizer rappelle ce matin dans le Figaro que le Paxlovid arrive en pharmacie. Qu'est-ce que vous nous dites de ce médicament ? Que peut-on en attendre ?
Alors c'est justement un des outils supplémentaires qui se rajoutera et qui fera que les prochaines vagues ne ressembleront plus à celles que l'on a connues aujourd'hui. D'une part parce qu'on a bien expliqué, les vaccins vont nous protéger de mieux en mieux sur les formes sévères, mais que pour les personnes à risque de formes graves, si vous vous faites traiter par le Paxlovid dans les 5 jours après le début des symptômes, vous divisez par 10 vos risques d'hospitalisation. Donc la gestion des prochaines vagues va être différente. Et tous ces outils vont faire que, heureusement, elles seront de moins en moins impactantes pour la société.
Arnaud Fontanet, merci d'avoir été au micro d'Inter, Institut Pasteur, Conservatoire National des Arts et Métiers et membre du Conseil Scientifique. La revue de presse, Claude Askolovitch, à suivre.
France Inter.